Vous êtes toujours devant le bateau-remorqueur McAllister. Continuez de marcher vers l'ouest en longeant le canal. Devant vous, vous pouvez voir des panneaux d'interprétation qui contiennent plus d'informations sur le remorqueur et les silos à grains situés de l'autre côté du canal. Vous pouvez prendre le temps de les lire, mais dans ce cas, n'oubliez pas d'appuyer sur pause et reprenez la balade lorsque vous le souhaiterez. Le secteur dans lequel on se trouve faisait autrefois la fierté de la population, qui appréciait les beautés de ce paysage industriel. Certains éléments de ce paysage sont encore observables. Remarquez la gigantesque structure qui s'étend de l'autre côté du canal de la Chine. C'est le silo numéro 5. Dans les années 20, Montréal devient le premier port d'exportation céréalier au monde. Les grains, en provenance de l'Ouest, arrivent par voie maritime ou ferroviaire et sont conservés dans les silos qui se trouvent devant vous. Ils sont ensuite exportés vers l'Europe par bateau. Plusieurs minoteries, c'est-à-dire des usines qui permettent la transformation des céréales en farine, s'installent dans le secteur. On va parler des minoteries un peu plus tard. Autrefois utilisé comme un immense entrepôt à céréales, le silo numéro 5 est désormais reconnu comme bâtiment d'intérêt patrimonial par le Bureau d'examen des édifices du patrimoine parce qu'il est l'unique exemple de l'évolution architecturale des silos à grains à Montréal. Construit en quatre étapes, entre 1906 et 1958, il fonctionne sous le principe d'un élévateur à céréales. Il est composé d'une partie centrale, de briques et d'acier, et de deux annexes en béton armé, ajoutées par la suite. Il compte au total 206 silos, répartis sur les trois structures. Remarquez une petite tour de béton, devant vous à gauche. Empruntez les escaliers qui se trouvent tout près, et arrêtez-vous une fois près de la tour, pour admirer la vue. Alors que le silo numéro 5 était opérationnel, des élévateurs flottants permettaient de décharger les céréales qui se trouvaient dans les cales. Ils permettaient aussi de décharger les navires sans toucher au quai, ce qui était considéré comme une prouesse technologique à l'époque. À partir des années 80, l'utilisation du silo numéro 5 est en déclin. À la fin des années 90, le Québec est un producteur autosuffisant d'orge, d'avoine et de maïs. Le besoin d'importer et d'entreposer ces céréales disparaît progressivement. En 1991, le silo est partiellement fermé. Une annexe sur trois sert encore d'entrepôt complémentaire pour les minoteries voisines, mais les deux autres ne sont plus utilisées. En 1994, les recettes ne couvrant plus les dépenses, le silo est vidé une dernière fois et cesse d'être utilisé la même année. Vous êtes maintenant en haut des escaliers près de la tour. Arrêtez-vous un moment pour observer la belle vue sur le port. Continuez de longer le canal, toujours vers l'ouest, sur quelques mètres. Voyez devant vous une bonne fontaine. Contournez-la, puis tournez à droite pour se rendre sur la plateforme qui se trouve devant vous. Vous allez y trouver d'autres panneaux d'interprétation. Encore une fois, si vous le souhaitez en lire le contenu, libre à vous de faire une pause et de reprendre le parcours plus tard. De la plateforme où vous vous trouvez, prenez le chemin qui mène vers le pont Mill. Empruntez le trottoir de gauche et arrêtez-vous une fois au milieu du pont. Attention aux cyclistes. Dans les années 1850, avec l'arrivée du chemin de fer, l'entrée du canal de la Chine devient une plaque tournante pour de nombreuses marchandises et une voie de communication incontournable vers l'Europe. Plusieurs industries importantes s'installent le long des rives du canal. Dominion Textile, Stelco, Ogilvy et Redpath, pour n'en nommer que quelques-unes. Autour de 1850, sur l'île de Montréal, plus d'un employé sur cinq travaille dans les industries qui longent le canal de la Chine. D'ailleurs, l'industrialisation dans ce secteur de la ville a un lien direct avec l'urbanisation. Les ouvriers s'installent à proximité de leur lieu de travail, ce qui contribue à accroître la population des quartiers environnants, comme c'est le cas pour Griffintown, mais aussi pour Goose Village. D'ailleurs, à cette période, la population de Montréal augmente à une vitesse fulgurante. En effet, elle passera de 58 000 habitants en 1850 à 1 million un siècle plus tard. Arrêtez-vous au milieu du pont. Prenez le temps d'observer ce qui se trouve de part et d'autre de l'endroit où vous êtes. D'ici, on a un beau point de vue des industries du secteur et sur les bassins du canal. Revenons un moment sur le silo numéro 5, dont on peut voir toute l'immensité d'ici. Grâce à une campagne visant sa sauvegarde dans les années 90, le silo numéro 5 évite la démolition. Le bâtiment appartient désormais à la Société immobilière du Canada, en charge de sa revitalisation. On souhaite ainsi faire du silo numéro 5 une destination incontournable pour les Montréalais et les touristes, le tout visant à conserver cet important vestige du patrimoine industriel. Pour l'instant, les fins et les visées du projet ne sont pas clairement définies. Comment imaginez-vous la reconversion d'une structure aussi imposante? Avec un peu de patience, on finira sûrement par savoir ce qui donnera une seconde vie au silo.